poule aux vanilles. J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanilles.
Deux boules vanilles.
Je sais pas. Deux boules vanilles.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Deux boules vanilles. Deux boules vanilles, c'est tous les jours de l'été à 17h et en rediffusion le lendemain à 8h. Une émission réalisée par les salariés et des bénévoles de Canal B. Aujourd'hui, je vous propose deux reportages en lien avec un hobby estival et très breton qu'on aime notamment bien pratiquer à Carhaix, Binic, Bobital, Crozon, au fort de Saint-Père, à Bréal-sous-Montfort, à Rennes et dans plein d'autres lieux encore ici en Bretagne, où certes il pleut beaucoup, mais où il n'y a pas un seul député RN et quitte à choisir, je préfère être en grave déficit de vitamine D. Le soleil azurien ne fait pas le poids face au crachin breton. Bref, passons cette petite parenthèse politique. Ce passe-temps dont je vous parlais, ce passe-temps estival très breton, c'est d'aller en festival, d'aller voir des concerts. Mais quand on a les pieds dans la boue, un gobelet consignable en main et de la bonne musique plein les oreilles, on ne se doute pas forcément de ce qui se joue en coulisses. Or, de nouveaux enjeux très importants se sont imposés aux organisateurs et organisatrices de festivals, de spectacles et de concerts, aux dirigeants et dirigeantes de salles, aux producteurs et productrices. Comment déprogrammer un artiste accusé d'agression sexuelle ? Comment gérer des comportements problématiques, voire condamnables ? Au sein de l'association Le Collectif des Festivals, la mission Sturm a vu le jour pour lutter contre le sexisme dans les musiques actuelles en Bretagne. Elle organisait le 29 mai dernier le tout premier atelier en France sur l'intégration des violences sexistes et sexuelles dans les clauses des contrats qui lient les artistes aux festivals, aux salles de spectacle, aux organisateurs, organisatrices de concerts, spectacles en tout genre. J'ai réalisé à cette occasion un reportage pour Plus d'excuses, une série autour de la sensibilisation aux enjeux d'égalité et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour Radio Boa, nouvelle radio associative régionale de Bretagne, et je vous propose de l'écouter. Puis, en seconde partie d'émission, un autre reportage, cette fois-ci au stand Prève du festival Quartier d'été qui a eu lieu l'an passé. Côté musique, j'ai prévu des morceaux extraits de la compilation Cartel volume 2 sorti en juin dernier qui met en lumière l'univers musical féminin transgenre et non binaire avec notamment les Nantaises Hildegarde et leur morceau Homicide volontaire et Vicky Verino et son titre Empty Eyes.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je suis Morgane. Bonjour. Ah, enchantée, Morgane.
Ça va ?
Ouais, ouais, ouais.
Bonjour, je suis Alix Davas, je suis coordinatrice de la mission Sturm, qui est un projet de lutte contre le sexisme dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne. C'est un projet qui est coporté par 5 associations, le Festival Astropolis, le collectif Orange Bleu, HF Plus Bretagne, le collectif des festivals et Supermab. Aujourd'hui, on organise à la Maison des associations à Rennes un atelier qui vise à outiller les organisateurs d'événements et les producteurs du secteur de la musique sur l'intégration des violences sexuelles dans les clauses de leurs contrats. Donc à la fois pour prévoir d'éventuelles déprogrammations d'artistes accusés de violences et puis aussi pour protéger les artistes qui en seraient victimes en le prévoyant de manière contractuelle. Donc on attend une vingtaine de personnes.
Oui, avant de laisser la parole à Laure Arnaud, je vais juste faire un petit mot d'introduction. Donc cet atelier est organisé dans le cadre de Sturm, qui est un projet de lutte contre le sexisme dans le secteur des musiques actuelles. Donc on l'a proposé notamment suite à de nombreux échanges et retours qu'on avait eu aussi de besoins à la fois de structures qui font de la diffusion ou de la production sur la déprogrammation d'artistes qui seraient accusés de violences sexuelles ou victimes de violences. Et donc on voulait essayer de proposer un cadre de réflexion et des pistes d'analyse aussi sur ces questions-là, avec une approche juridique mais qui prenne en compte aussi la réalité des violences sexuelles. Donc l'idée là, c'est un atelier un peu expérimental, c'est la première fois qu'on le propose. Donc il y a Arnaud et Laure qui vont se présenter, qui ont réfléchi justement aux questions qui peuvent être posées par ces situations. Enfin voilà, l'idée c'est aussi à partir de ces échanges de pouvoir produire de la ressource. Donc voilà, et puis bon atelier.
Vous êtes encore plus que prévu, quoi. Il y a des gens qui se sont incrustés. Vous avez vu de la lumière. Bonjour à toutes et à tous.
Eh ben, on est hyper heureux qu'il y ait autant de monde qui soit intéressé par ce sujet. Alors, on va d'abord se présenter chacun et puis on va vous proposer un cadre d'intervention pour cette journée, les horaires, tout ça, la confidentialité, machin. Et on fera un petit tour de table rapide parce que vous êtes beaucoup. Alors moi, je commence, je m'appelle Laure Ignace. Je suis formatrice indépendante en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le cadre du travail, depuis 3 ans. Et ce qui me permet d'avoir cette compétence, c'est que j'ai travaillé pendant de longues années à l'AVFT, l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui est la seule association en France spécialisée dans la lutte contre les violences sexuelles commises dans les relations de travail. Depuis 40 ans, c'est une association nationale. Je suis juriste de formation et de pratique. Et il s'avère que j'ai été contactée principalement par le milieu culturel breton. Et je me suis devenue un peu spécialiste des violences sexuelles commises dans le milieu culturel, notamment breton. Je suis très heureuse d'être avec vous.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud Montas. Je suis professeur de droit privé et de sciences criminales à l'université de Brest. Et j'enseigne le droit de l'art et de la culture, j'enseigne aussi le droit pénal et le droit des contrats. Et dans mes activités de recherche, j'ai beaucoup travaillé sur les interactions entre le droit et la culture hip-hop en général et le rap en particulier. Et donc quand on travaille aujourd'hui sur le droit de l'art et le droit des pénal et le droit des contrats, on est forcément sensibilisé à la question des VSS, quoi. Et donc il y a des demandes de plus en plus grandes, de plus en plus fortes sur ces questions. D'où l'objet de cet atelier, de cette formation, essayer de vous donner des outils pour effectivement essayer de gérer au mieux par l'outil juridique, l'outil contractuel, des situations très inconfortables.
Le droit du travail, faut bien être au clair là-dessus, c'est vraiment le droit qui régit les rapports entre les employeurs et les travailleuses et travailleurs. Ça ne régit pas les rapports qu'il y a entre, par exemple, une salle organisateur, un festival, et une société de production. Ça, c'est Arnaud qui va en parler après, c'est un contrat commercial. Le droit du travail, donc, c'est entre employeurs et travailleuses-travailleurs, qu'ils soient permanents ou intermittents. Il y a une relation de travail, même si elle dure 2 heures, 1 heure, une journée, une semaine, c'est une relation de travail, et l'employeur a des obligations dans ce cadre-là, même si c'est un laps de temps qui ne dure pas dans le temps. Et donc maintenant, dans la relation des employeurs vis-à-vis de leurs travailleurs et travailleuses qu'ils emploient, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, quelles sont leurs obligations légales et parfois jurisprudentielles, c'est-à-dire qu'est-ce que les juges leur demandent de faire en la matière. Allez-y, c'est à vous.
Prévenir.
Ah, la prévention. Le Code du travail rend obligatoire l'affichage des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel. Déjà, la majorité des boîtes ne sont pas à jour avec ça. Il n'y a rien que la petite affiche là, avec le délit de harcèlement sexuel interdit et les différents numéros et coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail, du défenseur des droits, et le fait qu'on peut aller déposer une plainte pénale ou saisir le conseil de prud'homme. On doit avoir écrit tout ça sur cet affichage. Êtes-vous à jour? Non. C'est pas bien! C'est quand même pas compliqué. Il y a des modèles sur Internet. Il suffit d'imprimer, hop, tac, on affiche partout, dans les toilettes, tout ça. Donc l'affichage obligatoire. Il y a quoi d'autre?
Donc il y a la vie interne à la structure, donc avec des contrats qui sont conclus dans la structure. Mais il y a évidemment des contrats qui sont conclus entre la structure et l'extérieur. Donc, on va essayer de voir que finalement, un contrat, il obéit à certaines règles, il y a des contraintes, mais il est également très libre dans sa rédaction, dans sa formulation, et qui peut servir d'outil vraiment pertinent, vraiment utile, pour lutter de manière générale contre les VHSS.
Là, la fête de fin de saison, c'était samedi, j'avais 39 bénévoles sur le VHSS, donc c'est bien.
Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui peut m'expliquer la pyramide sur le tableau, outrage sexiste, voyeurisme, exhibition sexuelle, tout ça?
En fait, c'est la pyramide des infractions sexuelles avec de la, je sais pas si on peut dire moins grave, à la plus grave. Et on commence par l'outrage sexiste, le voyeurisme, l'exhibition sexuelle, Après, il y a le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle et enfin le viol.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance de théorique de ce matin ?
Je dirais que ça ouvre des portes, ça défige un peu le côté strict qu'on peut imaginer du droit. Moi, j'ai l'impression d'avoir de voir des portes qui s'ouvrent sur la possibilité de rajouter des clauses dans les contrats, ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant. On a défini aussi des choses et ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps, de redéfinir les infractions, tous les termes en fait juridiques, distinguer le droit pénal aussi. Du milieu des contrats, où c'est encore vraiment deux choses distinctes.
Ok, on va reprendre. Est-ce que ça va ? Après cette matinée,
t'es fatiguée ?
Oui.
Le moment de la digestion. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé au déjeuner sur ce matin ? Non ? Eh bien, on a préparé des petits scénarios avec Arnaud. Et on vous propose de vous mettre en 6 groupes de 3. Allez, elles sont 3. Formidable. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent bouger ? Là, vous mélangez aussi peut-être un point infini avec Ferraroc. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Vous avez du temps, hein.
Vous êtes organisateur du festival Miami Braze. Pendant les balances de l'après-midi du concert, le bassiste et la guitariste du groupe ne cessent de faire des commentaires sexuels sur la régisseuse plateau. Celle-ci leur répond par la provocation, puis elle finit par s'énerver. Le ton monte, le bassiste se rapproche physiquement d'elle, l'insulte et lui fait une tape sur les fesses. La régisseuse quitte le plateau et va voir la direction. Que peut faire la direction en termes de déprogrammation ?
Donc on essaie de caractériser le fait déjà, après tout ça. Donc on convoque les protagonistes dans un premier temps.
Est-ce qu'il faut en parler avec tout le monde, dont les personnes concernées, ou est-ce qu'il faut d'abord prendre une décision sans les personnes concernées justement ? Enfin, en tout cas sans les responsables de l'agression.
Moi je pense que la première chose à faire c'est prendre la déposition de la personne qui vient remonter l'info à la direction.
Ouais. Donc on caractérise via son témoignage qu'il y a une agression sexuelle. Donc l'agression, elle est caractérisée.
Du coup, là, commence le travail d'enquête, qui commencerait peut-être plus tôt par interroger les témoins que les mis en cause.
Ouais.
Donc, a priori, les autres personnes qui font partie de l'équipe de l'organisateur, peut-être dans un premier temps.
Donc, on recueille les témoignages de la victime. En deux... On essaye de trouver d'autres témoignages qui corroborent.
Oui, peut-être avec d'autres techniciens ou techniciennes qui auraient vu la scène aussi.
D'autres témoins pour infirmer ou confirmer.
Après, ça dépend comment on prend l'examen. Soit on est dans un cas où, genre, imagine ça nous arrive demain, ou est-ce qu'on est dans le cas où qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ?
C'est pas pareil. Ouais, pour moi, c'est plus intéressant de se poser la question de si ça nous arrive demain, qu'est-ce qu'on fait
c'est ça.
Nous, en tant que, qu'organisateur. Quoi.
Parce qu'on a des responsabilités, on l'a bien vu ce matin, tu vois. Donc là, normalement. Par rapport à ce qu'on a vu, on a été donc sur notre lieu de travail, où on est tenu d'avoir toutes ces responsabilités, il y a eu une agression sexuelle.
Pause musicale dans De Boulevanie sur Canal B, on va écouter les Nantaises Île-de-Garde et leur titre Homicide volontaire.
Il se sentait menacé. Aucune trace d'effraction, rien n'a été volé. Il se sentait menacé, mais pourtant, il a laissé l'agresseur entrer. Il ne s'est pas méfié d'un visage qui, certainement, lui paraissait familier. Un assassinat perturbant, dont la police aura du mal à dire si le mobile était personnel ou politique, jusqu'à l'envoi en recommandé d'une lettre à l'épouse de la victime. J'aurais voulu ne pas me salir les mains, j'aurais aimé ne pas subir, ne pas souffrir, pouvoir me concentrer sur mon avenir. Malheureusement, je n'ai pas pu me résigner à laisser un type comme ça en liberté.
Je ne sais pas comment il était, peut-être qu'il était sympathique, qu'il emmenait Nina à la danse classique le mercredi après-midi et Thomas à l'entraînement de foot le dimanche matin. Peut-être qu'il vous aimait, que vous l'aimiez, qu'il était du genre à vous masser les pieds, à vous emmener le petit déjeuner au lit. Je ne sais pas si j'en suis désolée, mais quoi qu'il en soit, tout ça est terminé. Éclairer sur les circonstances de la mort et surtout sur le profil potentiel du meurtrier. Tout à fait, Christophe. La police pense d'abord qu'il s'agit très probablement d'un homme, étant donné la violence du coup porté à la tête. Mais les enquêteurs n'excluent aucune piste. En effet, sous l'emprise de la colère, une femme pourrait avoir porté le coup fatal. On pense notamment à l'affaire Jacqueline Sauvage. Je n'avais rien prévu de si létal, de si définitif. Je voulais simplement le confronter à ses actions, lui faire admettre la vérité. Peut-être que j'espérais des excuses, une forme de rédemption. Mais lorsque je suis arrivée, tout était barricadé. J'ai entendu un cri, j'en ai profité pour passer par la porte de derrière, celle par laquelle il y a 10 ans déjà j'étais entrée. Quand je suis arrivée, il y avait cette fille évanouie, inconsciente sur le canapé. Je n'ai pas réfléchi, je me suis cachée derrière. Quand il est finalement entré, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé ce chandelier et j'ai frappé. Lorsque mes yeux se sont réouverts, j'avais commis un homicide volontaire. Un homicide volontaire ! Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, hein ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Le groupe Hildegarde avec leur titre « Homicide volontaire » sur Canal B dans Deux Boules Vanille.
Et
Le groupe Acapulco doit se produire dans le cadre du festival Miami Braise le 23 juin 2024. Le 29 mai, l'administratrice du festival apprend par la régisseuse Lumière qui vient d'être recrutée pour le montage Lumière du festival que l'année précédente, elle a subi des attouchements de la part du bassiste du groupe Acapulco, qu'elle pensait être passée à autre chose, mais à la perspective de le revoir, elle se sent mal. L'administratrice, avec l'accord de la victime, en informe sa direction qui décide d'appeler le producteur du groupe pour lui demander s'il a déjà reçu des plaintes sur le comportement du groupe avec les équipes. La productrice lui répond qu'ils sont réputés être assez lourds avec les femmes, qu'ils font des, entre guillemets, blagues en dessous de la ceinture. L'administratrice décide alors de passer quelques coups de téléphone à des festivals et à des salles où Acapulco a l'habitude de se produire. L'administratrice d'une salle lui signale alors qu'ils ont recueilli il y a 3 mois le témoignage d'une femme du public très affectée après une soirée passée en compagnie du bassiste après le concert. Elle a peu de détails, mais il s'agit visiblement de faits de harcèlement sexuel. La question c'est, quelles actions peut effectuer la direction du festival ? Qu'est-ce qui lui permettrait de déprogrammer le groupe ou d'empêcher à tout le moins la venue du bassiste fin juin ? Reprenez ensuite la même situation, mais la personne mise en cause est le régisseur plateau permanent d'une salle, la victime, la bassiste du groupe.
Par où il circule dans le festival pour aller sur la scène, tout ça, de s'assurer que de toute façon, à aucun moment, elle n'est amenée à le croiser. Quoi. Et de ça, je trouve ça important aussi, c'est de bien notifier ça au groupe.
Carrément.
Tu vois, qui savent qu'on est obligé de mettre en place des choses et qu'on a considéré en fait tout le passif et les témoignages qui sont venus.
Parce que là aussi, le fait que quand il dit la production lui répond qu'ils sont réputés être assez lourds, là on parle plus que du bassiste, donc faut quand même.
Oui, c'est ça, c'est ils. Ils font des blagues.
Donc ouais, tu disais
un membre de la sécu qui accompagne le groupe tout le long.
Ouais, d'être tout le temps avec eux.
Ouais, et qui sont surveillés quoi, comme des mômes.
Et qui sachent pourquoi, enfin vraiment
ouais,
que tout
ça
soit expliqué.
Tout à fait. Ouais. Mais que sachez que en fait le maintien de votre programmation
ne dépend que de la présence de la sécurité.
Fait que en fait on va mettre en place ça, ce sont les conditions qui vont être mises en place autour de votre venue. Donc après, à vous de choisir si vous voulez venir ou pas.
Tu vois.
Mais il y aura un membre de sécu, un ou une membre de sécu qui va vous suivre tout le long, le planning va être adapté, vous n'allez peut-être pas avoir la même circulation, tout ça.
Parce que ça veut dire aussi, alors là je pense à un côté très financier, mais ça veut dire que tu emploies quelqu'un à la sécu, en plus, pour la journée, pour tout ça. Ça veut dire que ce qui te coûte plus cher,
tout à fait.
Tu fais en sorte de...
Mais les agresseurs, ça coûte cher, hein.
Ça coûte cher à la société.
Non, mais ça se négocie avec la production.
Ouais, tout à fait.
Par contre, c'est vous qui allez le payer, quoi. Jusqu'où on estime que peut-être vaut mieux prendre ce risque-là que de maintenir la programmation.
Ça peut coûter une fortune.
Ah bah c'est ça qu'on ne savait pas.
Ouais, parce que l'artiste déprogrammé, il peut vous demander le remboursement des frais engagés.
Ouais.
Il peut vous demander aussi à toucher son cachet complètement, puisque c'est vous qui prenez la décision de ne pas le programmer. Mais... Mmh. Et il peut aussi vous demander, il peut cumuler ça, et il peut en plus vous demander par exemple des dommages et intérêts.
Ouais.
Judice moral, si son image de marque... son honneur ou sa considération a été atteinte.
Mmh. Oui, mais est-ce que nous,
ça
on peut pas...
coûter beaucoup plus cher à posteriori.
Oui, bah c'est ça qu'on s'est dit, qu'il fallait savoir.
D'où l'idée d'avoir un bon gros contrat qui protège et qui donne pas envie d'aller au procès.
Ouais.
Mais est-ce que nous, on ne peut pas utiliser aussi l'atteinte à l'image comme un levier dans le cadre des clauses de contrat pour dire en fait, nous, s'il y a des accusations, atteinte à l'image, perte financière potentielle, et au-delà du fait qu'il y ait eu plein de témoignages concordants, ça, ça fait aussi partie des clauses d'annulation.
Ouais. Alors, atteinte à l'image, ça peut, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça peut être attaché à ce qu'on disait tout à l'heure, aux valeurs de la structure d'accueil. Mmh. Mmh. Nos valeurs, prenons les valeurs de l'égalité des sexes. Hein. Imaginer, et en l'occurrence le comportement ici, il n'est pas conforme à nos valeurs.
À moins qu'il y ait des questions encore, on voulait vous proposer de terminer en rédigeant votre propre clause, vos propres clauses, si vous voulez. Donc vous repartiez avec en fait un peu un début
De rédaction, soit sur un carnet, soit si vous avez, je vois qu'il y en a plein qui ont des ordi.
Est-ce que tu peux partir de ta proposition de ce matin?
Ouais, mais vous allez copier.
Oui.
Non, vous n'avez pas le droit. C'est la propriété intellectuelle. Oui, mais après, du coup, ce serait bien d'ajouter à votre propre contexte. Si on fait juste le plan, il y avait l'histoire des valeurs. Genre, vous êtes engagé, machin, vous avez telle valeur. Après, il y avait, dans le cas où plusieurs témoignages concordants, etc., nous avons le droit d'annuler. Et après, il y a, qu'est-ce que vous entendez par témoignage concordant? Et après, il y avait les conditions de l'annulation. Et à partir de là, vous avez la trame et vous pouvez rédiger vous-même. Ça sera plus mieux si c'est toi qui rédiges, tu vas voir.
Tu peux écrire simplement que vous vous réservez le droit d'interrompre la diffusion, c'est ça?
Le partenariat.
Le partenariat, tout simplement. D'arrêter le... Interrompre, tu vois, c'est apparemment... Le droit de retrait, c'est vraiment un vocabulaire de... C'est un salarié qui se sent en danger dans le cadre de ses fonctions, qui est un peu là, désolé, je me retire. Quoi.
C'est pas un terme qu'on retrouve dans d'autres
langues? Non, je ne compare pas à ma connaissance. Interrompre le contrat ou le partenariat, ça marche. Quoi, c'est vous qui décidez. Hein. Dans ce cadre, nous réservons le droit d'interrompre le partenariat suite à un signalement qui met en cause l'artiste partenaire ou son entourage pour les faits de violence à caractère sexiste, sexuel, ainsi que pour tout comportement ou propos oppressif ou discriminant. C'est très bien, quoi.
Okay.
En fait, toute décision sera accompagnée d'un dialogue.
On a finalement enlevé l'aspect ou son entourage. D'accord. Parce que on...
Vous voulez le repréciser un petit peu, il était trop large pour nous.
Oui, il était assez large, mais en même temps, quand on prend le cas de Burger Records aux États-Unis, c'était les managers qui étaient mis en cause et tout le label a fermé suite à. Bon, il n'y a pas eu que ces,
ouais, je comprends.
Que ces effets-là.
Le truc, c'est que si tu mets label entre parenthèses, tu limites la portée de ta clause uniquement au monde du label. Et peut-être qui met en cause l'artiste ou toute personne à laquelle elle est liée.
Est-ce que c'est
parlé, ça peut être un lien contractuel, une famille, un lien amical.
Ah oui.
Et sans doute le moyen le plus fiable, c'est de lister les personnes qui peuvent être concernées. Tu vois. Là, si tu mets l'entourage, ça peut être sa mère, ses voisins.
Non, c'est ça qu'au final, je l'ai enlevé, ça colle cette dimension-là, parce que ça regroupait trop de choses.
Si tu listes vraiment les personnes...
Enfin, c'est un entourage professionnel, et entre parenthèses, on préciserait les
listes. Tu listes, tu mets notamment...
Notamment, ça veut dire que s'il manque
quelqu'un. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre. Tu ne vous interdisais pas de résister à un comportement de quelqu'un qui n'est pas cité. Après, le terme oppressif, je le comprends, quoi, mais je ne sais pas s'il a une signification précise dans une clause.
D'accord.
Et ça, c'est un terme discriminatoire. Ça, c'est... En fait, c'est pas, si tu peux me permettre, c'est pas discriminant, c'est discriminatoire.
Au propos discriminatoire.
Ouais. Parce que dans le code pénal, il y a, en fait, j'ai pas le texte précis à l'esprit, mais le fait de traiter différemment des personnes pour ce qu'elles sont est une discrimination. Cela concerne notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, enfin, toute une liste de personnes qui sont souvent subies, mais c'est le terme, c'est discriminatoire. Et ça englobe tout, en fait. Dès que tu traites plus mal quelqu'un pour ce qu'il est, une femme, une personne homosexuelle, c'est une discrimination. Et là, tu peux rajouter « ou portant atteinte à la dignité des personnes ». En fait, la dignité, c'est un truc en droit, il n'y a pas de définition.
Et dès qu'il y a un truc qui est pas net, hein, qui va pas, quoi, ça, on le rattache à l'idée de dignité. Donc si tu le mets ici, ça te permet d'y intégrer plein de comportements différents. Et c'est un vocabulaire juridique.
17h, c'est l'heure de la fin. Est-ce que vous, ça va?
Non,
j'ai
pas.
Vous avez fini votre clause? Presque. Bravo! Applaudissez-vous. Ben, on espère que ça vous a servi, plu, tout ça, que vous avez appris des choses. Et on a un petit document. Mémo, droit des contrats.
Ah, cool.
Merci. Vous allez voir, c'est tellement génial.
Sur le frigo.
Sur le frigo. Bon, les toilettes. On nous retient bien. Tu sais, quand tu t'ennuies aux toilettes. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. C'était très riche. J'ai encore appris plein de trucs, comme à chaque fois. Au revoir. Bah ben ouais, carrément. Bonne suite. Et bise à la Karen, quand même. Bon, on rentre bien. À très bientôt.
Merci, Laure.
Ben voilà, à la prochaine. Bonjour, moi je suis Laure Ignace, je suis militante féministe, juriste et formatrice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment dans les relations de travail.
Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Montas, je suis professeur de droit privé à l'université de Brest. En Bretagne, je m'intéresse beaucoup et de plus en plus aux questions de droit de l'art en général et donc aux questions des VHSS.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'objet de la formation d'aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, c'est suite à une prise de conscience très globale de la réalité des VHSS dans le milieu du spectacle vivant en général et des festivals en particulier. Et effectivement, les faits ne sont pas contestables. Donc, il y a une demande des acteurs et des actrices du milieu culturel pour avoir des outils, notamment juridiques, pour... prévenir ces agressions au sens large, et puis lorsqu'elles sont commises, pouvoir réagir correctement dans l'intérêt surtout des victimes, mais également dans le respect des règles du droit.
Oui, et peut-être ajouter que le Code du travail prévoit des obligations claires pour les employeurs, assez claires, pour les employeurs en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Mais en revanche, sur le terrain, on va dire, de la relation commerciale, qui est beaucoup le cas dans le milieu culturel, puisque à un moment on vend des spectacles, on était assez dépourvu d'outils pour arriver à imposer un rapport de force lorsque une des deux parties a un membre au sein de son équipe ou des membres au sein de son équipe qui sont violents avec notamment des femmes. Et donc pouvoir annuler des concerts, annuler des pièces de théâtre, ou annuler la venue d'un artiste, ou protéger une artiste qui est victime dans le lieu de violence. Et là, il y a assez peu d'outils, parce qu'on est un peu au balbutiement, au début de cette lutte, et que le droit ne prend pas encore bien en charge, le droit civil, le droit des contrats ne prend pas encore bien en charge cette question.
À qui elle est destinée, cette formation ?
Aujourd'hui, elle était clairement destinée à des professionnels de la culture, mais c'est une formation qui pourrait être proposée à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, parce que la question des VHSS, effectivement, elle est particulièrement visible et sensible dans le secteur de la culture et du spectacle vivant. Mais les règles qu'on a présentées ensemble, les propositions qu'on a faites, elles pourraient peut-être, évidemment, en les adaptant, en les améliorant, en les corrigeant d'une certaine manière, elle pourrait avoir vocation à s'appliquer à tous les rapports de droit qu'on peut rencontrer dans la société. Hein. Là, on a vu le secteur culturel, mais dans le milieu du travail en général, dans le milieu médiatique, on ne va pas faire la liste des domaines dans lesquels on constate ce genre de fait, mais c'est une formation qui aujourd'hui était ouverte aux actrices et aux acteurs du secteur culturel, mais qui demain pourrait être ouverte à tous ceux qui le veulent, quoi. Et ça serait d'ailleurs plutôt une bonne chose, me semble-t-il.
Là, on s'adressait plutôt quand même à des personnes qui manient des contrats. Donc des administratrices de production, des producteurs, productrices directement, des organisateurs, donc directeurs de salles. Voilà, on avait quand même plutôt ce profil-là aujourd'hui, parce que c'est eux et elles qui négocient des contrats de cession, des contrats de coproduction, des contrats de co-réalisation, etc., etc.
Quels sont les nœuds au sein de l'univers musical français qu'il reste à dénouer? Alors, je dis musical, mais ça peut être artistique.
Il n'y a pas de réponse globale à cette question, mais par exemple, on constate qu'il y a parfois, lorsque des victimes vont agir en justice, soit pour faire sanctionner leur agresseur, soit pour être indemnisés des préjudices que l'agression leur a causés, il y a parfois un sentiment de déception à l'égard de la justice, parce qu'il y a des règles qui sont bonnes ou moins bonnes parfois, mais qui empêchent assez régulièrement une bonne sanction, enfin, si vous comprenez l'expression, quoi, ben voilà, des comportements qui sont incriminés. Et aujourd'hui, on constate, Laure a donné ces chiffres pendant la formation, que l'immense majorité des dépôts de plaintes pour viol et agression sexuelle, hein, sauf erreur de ma part, je crois que c'est plus de 90% qui sont... 94%, merci, qui sont classés sans suite. Donc voilà, pour la victime, ouais, c'est un affront, quoi, clairement. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être améliorées, mais ça relève pas de notre travail à nous, ça relève principalement du système judiciaire français.
Et du coup, ça, pour compléter Arnaud, ça encourage d'autant plus les structures internes à prendre les choses à bras-le-corps en interne, puisque la justice pénale ne fonctionne pas ou quasiment pas. Et on a tout un arsenal en interne possible grâce au code du travail, grâce au droit contractuel là qu'on est en train de voir, pour prévenir ces situations, mener des enquêtes, savoir recueillir la preuve, sanctionner ces agissements. Et donc je crois que c'est aussi un des nœuds, c'est que aujourd'hui on commence à avoir des déprogrammations d'artistes. On commence à avoir des mesures disciplinaires prises en interne des structures pour sanctionner ce type d'agissement, voire parfois licencier des harceleurs sexuels dans le milieu culturel. Mais ils vont ailleurs. Et que c'est peut-être aussi ça la difficulté. C'est après, qu'est-ce qu'on fait plus globalement, quoi, dans le milieu, en fait, pour arrêter de faire de la place
à ces gens-là,
oui.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans De Boule Vanille. On va écouter Vicky Verino et son titre Empty Eye. C'est toujours sur la compilation Cartel volume 2.
Again.
Empty Eyes de Vicky Verino sur Canal B dans Deux Boules Vanille. Je vous propose de poursuivre avec un second reportage réalisé l'an passé au festival Quartier d'été organisé par le 4 bis. Cette fois-ci, c'est au tour du stand prévention des risques lors d'une visite Regards partagés en lien avec le collectif des festivals. Il est notamment question de VSS, violences sexistes et sexuelles.
Charlie, Mathieu. C'est la visite Regard Partagé avec le collectif des festivals. Est-ce que vous seriez OK pour faire une présentation de l'espace PREV et ce qu'on a mis en place sur la question des VSS?
Oui.
Je vais vous laisser avec mes collègues Charles et Mathieu.
J'ai jamais autant de monde au stress.
Hey. Et la visite Regard Partagé. En lien avec le collectif des festivals, et donc c'est d'autres festivals, les fêtes maritimes de Douarnenez, I'm from Rennes, le Grand Soufflet et le Stemfest. Il y a également l'équipe Média Jeune encadrée par Morgane de Canal B qui allait les interviewer, donc du coup ils vont capter le temps d'échange. Voilà, c'est génial, on fait tout en même temps. Et moi je vais faire l'ouverture du site, mais. L'idée, c'est de voir l'aspect prévention et puis le travail qu'on fait
autour des VSS. Donc, c'est Charlie, salarié au 4 bis, et Mathieu, qui est stagiaire au 4 bis. Et on est chargé du dispositif Prévent-Ville, donc un dispositif de prévention, réduction des risques en milieu festif. C'est-à-dire qu'on fournit des outils, des conseils, de l'orientation, etc. À tous les publics présents sur le festival. Sur tout ce qui concerne les consommations de produits, ça peut être drogue et autres, mais aussi les pratiques liées à la vie affective et sexuelle, les risques auditifs, les pratiques sur la route, etc. On a pas mal de matos que Mathieu peut présenter un petit peu.
Du coup, en termes de matériel qu'on distribue, on a ceux qui sont plus classiques, donc les préservatifs. On a les internes comme les externes. Les internes passent d'ailleurs vachement bien parce que c'est souvent difficile de s'en procurer et ça amène pas mal d'échanges avec les gens sur c'est quoi un préservatif interne et comment ça fonctionne. On a aussi les éthylotests 0,5 et 0,2 qu'on a tendance à mettre un peu plus tard parce qu'on essaye de faire en sorte que les gens viennent les faire sur le stand avec nous. Mais on les donne si vraiment ils les demandent, ça dépend des... On a des conversations. On a des bouchons d'oreilles qu'on essaye de mettre même avant que le stand ouvre parce que nous on ouvre à 19h et les concerts commencent un peu plus tôt. Après, on a des roules tabac qui sont vraiment plus des objets de réduction des risques pour le coup, donc qui est là pour faire en sorte que les personnes réduisent leurs risques au maximum, parce que la réduction des risques, c'est une posture qui part du principe que les gens vont forcément consommer dans les milieux de fête, parce que personne ne pourra dire le contraire aujourd'hui, mais qu'on peut réduire au maximum le risque pour éviter, dans le cas des roules tabac, les transmissions d'hépatite. On a aussi quelques boîtes qu'on ne met pas trop en avant, mais qui sont des Steribox, donc pour les pratiques d'injection. Mais on essaye de mettre en valeur le fait qu'on peut en parler en mettant une petite boîte là-bas pour que les personnes puissent mettre leurs aiguilles si elles le souhaitent. Donc c'est aussi réfléchir au stand. Et après, au niveau de... On a plein de brochures sur vraiment beaucoup de sujets différents. Du coup, sur tout ce qui est santé sexuelle, sur tout ce qui est consommation, on essaye d'en avoir sur tous les produits. On met en avant plutôt ceux qu'on a vus les années précédentes sur Quartier d'été au niveau des bilans. Donc c'était alcool, cannabis et MDMA, mais on en a sur d'autres produits pour si les gens nous en parlent, pour leur donner les brochures, et aussi pour ouvrir la parole, pour montrer qu'on peut aussi parler des autres sujets. Et on essaye aussi d'avoir des brochures sur la santé sexuelle qui ne soient pas que hétérocentrées. On a celle tombée la culotte, excusez-moi, je fais un double truc. On a, je sais plus où elle est celle-là, mais on en a plusieurs sur, celle-là par exemple. Petit manuel des infections sexmissibles. Des infections sexuellement transmissibles entre femmes. Donc on essaie aussi d'avoir une réflexion sur nos publics qui peuvent ne pas être hétérocentrés. Et puis avec Quartier d'été, on a quand même la chance d'être vachement bien placé. On est vraiment en face de la scène et c'est quelque chose qui est vachement important pour les stands de prêve d'être visible, pour en avoir fait quelques autres. Dès que le public ne nous voit pas, on a vraiment plus de mal à capter d'autres gens que ceux qui connaissent les stands de prêve et qui viennent parfois même régulièrement, on les recroise sur d'autres festivals.
L'idée, c'est vraiment de
vraiment d'engager l'échange avec le plus de gens possible. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont juste venir se servir en matériel et puis repartir, et c'est OK. Mais l'idée, c'est vraiment de, ouais, de chercher l'échange, discuter. Par exemple, OK, tu consommes, comment tu fais? Et selon les cas, peut-être conseiller, ou même des fois, c'est même eux qui nous donnent des tips, les consommateurs, parce qu'eux sont beaucoup plus au courant que nous de tout ça. Et ouais, de créer l'échange au maximum, et sachant que selon les thématiques, voilà, nous on redirige aux besoins. Parce que le collectif, du coup, est coordonné par le 4 bis, mais il y a plusieurs associations qui sont membres du collectif, notamment le planning familial, l'asso AIDS, Liberté Couleur. On a aussi le collectif L'Orange Bleu, donc pas la salle de sport, le collectif de prévention et réduction des risques. Et on a aussi des assos partenaires comme Nos Ambules, Les Petits Débrouillards, etc. Donc vraiment, on a beaucoup d'assos partenaires sur lesquels s'appuyer aussi pour rediriger selon les thématiques, etc. On a aussi en ressources les XAPA, les CARUD, CJD et tout ça, tout ça.
Parce que les centres de prévention, c'est aussi un lieu d'éducation à la santé. Et du coup, l'orientation est vachement importante parce que c'est aussi essayer des fois de ramener les gens vers le soin et vers la santé. Parce que c'est un cadre où ils s'y attendent pas forcément, et vu que l'ARDR est dans une vraie posture de non-jugement, des fois ça peut les aider à les raccompagner vers le soin, parce qu'ils ont eu des... ils ont peur d'être stigmatisés parce qu'ils consomment, ils ont peur d'aller voir un médecin, comme beaucoup de gens en vérité, et du coup ce genre de cadre, ça peut aussi ramener les gens vers le soin.
Et en plus de ces missions d'information et aussi de mise à disposition de matériel, on a aussi une mission spécifique, notamment sur carte d'identité, c'est le protocole et l'accueil de personnes victimes ou témoins de violences sexuelles. Donc là, on a vraiment un protocole sur le festival avec toute l'équipe organisatrice, mais aussi les secouristes et la sécurité. Et nous, on a, derrière le stand, on a un espace vraiment d'écoute, qui est un espace plus confidentiel, vraiment beaucoup plus calme aussi, et qui permet en fait d'accueillir les personnes qui peuvent être en difficulté, que ce soit liées à des violences sexuelles ou des personnes qui ont pris des produits, qui sont en bad trip, qui sont en redescente, ça se passe pas trop bien, ils ont besoin d'être écoutés, réassurés. On fait un gros travail de réassurance. Et voilà, nous, on a aussi cette mission-là particulière, du coup, d'accueillir toutes les personnes qui en ont besoin. On a des personnes dans l'équipe qui sont formées à l'écoute. Et dans ce cas-là, si elles se sentent capables et qu'elles sont dispo, accueillir la personne et toujours faire au mieux pour qu'elle puisse aller mieux par la suite. Et pareil, au besoin, contacter les amis qui sont potentiellement sur le festival, trouver un moyen de retour si la personne veut rentrer, etc. Faire le lien avec la sécurité s'il y a une volonté, par exemple, de dépôt de plainte, etc., etc. Voilà, nous, on essaye au maximum de faire en sorte que la personne aille beaucoup mieux et que la fête se passe bien pour tout le monde.
Et aussi, juste derrière, on a un tout petit espace chill où les gens, sur lequel certains d'entre vous sont, où les gens peuvent se poser, qu'ils aient pris des produits pas, c'est vraiment un endroit juste chill, et qu'on essaye un petit peu de regarder qu'il n'y ait pas de gens qui aillent mal dedans, et d'aller faire, si le stand est calme aussi, aller faire un peu d'aller vers les gens qui sont posés en mode « Est-ce que vous avez besoin de matériel de prêve? Est-ce que vous voulez discuter? Est-ce que tout va bien ?» Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Moi, j'ai 3 questions. Mais je suis sûr que j'en oublierai une quand j'aurai posé la première. Premièrement, est-ce que vous avez une brigade qui parcourt le site dans le domaine des VSS en particulier?
Alors on a les secouristes et la sécurité qui sont en déambulation, ils ont des équipes assez nombreuses. Nous, ce soir concrètement, on va être 6 au stand, donc quand on sera 6, il y aura possibilité de partir en binôme, en déambulation, pour voilà, pareil, faire un tour, s'assurer qu'il n'y a pas des personnes un peu dans le mal, etc. Mais sinon, oui, la sécurité est très au courant de ces questions-là et ont été formés vraiment sur les VSS, donc ils sont très à l'affût et pareil pour faire en sorte que tout se passe au mieux.
Éthylomètre, est-ce que vous avez un éthylomètre pour faire des tests ici pendant que les gens partent, avant que les gens partent, ou pas distribuer quelque chose qu'ils mettront dans leur voiture où ils se font des réserves pour mettre dans leur voiture pour une autre fois, mais où il n'y a pas vraiment une action pour dire maintenant vous partez, testez-vous quoi.
On n'a pas d'éthylomètre électrique, malheureusement. Ici, on n'a que des éthylotests. Mais c'est pour ça que je disais au début, on essaye de faire en sorte que les gens reviennent sur le stand, les faire avec nous, et qu'on les met que à la fin du festival en libre service. On essaye d'avoir des conversations avec les gens, de revenir quand le site va fermer, on est là jusqu'à la fin. Mais non, on n'en a pas d'électrique, malheureusement.
Et le protocole VSS, il est écrit, enfin, il est formalisé écrit? Ou c'est juste, quand tu parles d'un protocole, est-ce que tu dis, ben, on a fait des réunions et on est d'accord sur la façon de procéder? Ou est-ce que vraiment, tu as un protocole écrit que tu donnes aux intervenants et aux gens qui sont sur le stand ou au service de sécurité?
Alors, les protocoles, ils ne sont pas tout faits, mis à disposition par des structures. C'est vraiment des protocoles qui sont faits, rédigés selon chaque situation. Donc là, pour quartier d'été, pour une autre intervention, un autre festival, ce sera un autre protocole parce que chaque protocole est spécifique au milieu festif. Et donc là, la société du coup d'agents de sécurité ARCA, eux, ils avaient déjà leur protocole pour quartier d'été qui était écrit. Donc on en a discuté tous ensemble. Il convenait à tout le monde. Donc on a pris la décision de se baser sur celui-là et pas d'en rédiger un nouveau. Ça aurait été en fait la même chose. Donc il convenait très bien. Donc voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. Il a été imprimé, transmis à tous les membres de l'organisation. Et au stand concerné, il y a toujours un exemplaire à dispo pour les bénévoles au cas où il y a un petit oubli, etc.
Est-ce que pour certains types de matériel, typiquement les roules tapailles ou alors les kits d'hygiène, est-ce que vous avez une stratégie, entre guillemets, de les mettre en dessous de la table, par exemple, pour pas que ce soit visible, parce que ça, certaines personnes qui peuvent être offensées, les familles notamment, est-ce que vous avez une sorte de stratégie là-dessus ou pas forcément? C'est mis à disposition et accessible à tout le monde.
Alors, les roules tapailles, on essaye d'en mettre juste un de visible et on les met à l'arrière. Parce que souvent les gens les touchent et ça devient un petit peu sale, donc on met un ou deux roules tapailles dans les boîtes juste là. Là, il y en a plus parce que en fin de soirée on en met plus, mais normalement il y en a juste un. Et oui, et pour les kits, comme j'ai dit, les Steribox, on en a une de périmée qu'on a mis dans un coin, et on a aussi un truc de récolte des aiguilles, mais on n'a pas des Steribox vraiment visibles sur le stand. Comme ça laisse aux gens l'information qu'ils peuvent en parler, ils peuvent demander. Mais les familles, en règle générale, ils ne regardent pas dans tous les petits coins. Et une boîte de récoltes d'aiguilles, ça attire moins l'attention qu'une Steribox déballée sur le stand. Mais après, ça dépend de l'heure du festival et ça dépend des publics du festival. Parce que c'est vrai que là, on est sur un festival qui, quand même, en règle générale, il y a des familles, il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a des festivals où c'est beaucoup moins jeune et du coup, ça peut être beaucoup moins gênant d'avoir quelques Steribox sur un stand. Donc c'est aussi en fonction du public du festival.
Et quel est le sujet que vous allez aborder le plus avec les jeunes, et pas les jeunes d'ailleurs, qui viennent sur le stand en général?
Là, souvent, et on l'a bien vu rien que hier soir, c'est toutes les thématiques liées à la vie affective et sexuelle. Tous ces questionnements-là, pas mal de questions sur les dépistages, comment se dépister, où se dépister, est-ce que c'est gratuit, etc., comment ça se passe. Des questions sur les premières fois et sur tout ce qui est contraception, protection contre les IST, etc. C'est vraiment beaucoup sur ces thématiques-là, mais ça n'empêche qu'on a quand même pas mal de questions sur les produits, les éthylotests aussi. Il y a pas mal de gens qui découvrent les éthylotests sur les stands de Prev, donc il y a toujours pas mal de questionnements là-dessus. Mais quand même, en grande majorité, avec le public jeune de quartier d'été, c'est la vie affective et sexuelle.
Mais après, ça dépend, comme j'ai dit, en fait, ça peut dépendre des soirs, parce que hier soir, c'était rap, et ce soir, c'est plus musique d'ensemble, donc ça attire pas forcément le même public, le mercredi et le jeudi. Donc en vrai, c'est très différent d'un festival à un autre. Enfin, pour avoir fait le Rock El Solex pas la même année, il y a une année, on avait surtout des étudiants, et une autre année, on avait que des trentenaires, donc c'est aussi pas les mêmes publics. Donc ça, c'est assez variable d'un jour à un autre et d'un festival à un autre. Mais c'est vrai que la santé sexuelle revient très régulièrement sur les stands de Prev, parce que l'alcool délie un petit peu les langues, et c'est des questions que les gens n'osent pas forcément poser.
Est-ce que pour la zone safe, est-ce qu'il y a une personne qui est là pour recueillir la parole des personnes qui pourraient la fréquenter, ou éventuellement formée par une structure extérieure, ou c'est vous qui êtes sur le stand ici qui vous relayez sur l'espace ?
On n'a pas une personne attitrée pour l'espace écoute, donc on se relaie, mais au sein de l'équipe, par exemple, on a des tout nouveaux bénévoles qui viennent d'arriver, qui ne sont pas du tout formés, donc on ne va pas aller les missionner à faire ça, parce que déjà, ils ne sont pas formés, et surtout, c'est aussi une charge émotionnelle à pouvoir gérer. Donc, par exemple, nous deux, on a une formation vraiment au minimum nécessaire pour l'écoute. Donc, nous, on peut s'en charger. On aura ce soir une bénévole du planning familial qui est formée à toutes ces questions-là, notamment à l'accueil des victimes. Donc, pareil, elle pourra le faire. Et après, c'est aussi selon comment on sent pendant la soirée. Est-ce qu'à ce moment-là, je me sens capable de recueillir la parole ou pas? Et dans ce cas-là, je délègue à un collègue.
Et aussi à qui les victimes veulent parler, parce que par exemple là on est, enfin moi je suis un homme, et si la victime elle veut pas parler à un homme ce soir-là, je vais pas la forcer à être écoutée par moi. Je vais lui proposer, on propose aussi l'écoute, on dit est-ce que ça te va d'en parler avec moi, ou est-ce que tu veux que j'aille chercher quelqu'un d'autre. Et aussi une dernière chose qu'on a mis en place sur le festival, c'est des petites affichettes où par exemple il y a écrit ce soir 23 jeunes ont eu la chance de devenir parents, sinon il y a des préservatifs au stand de Prev. Où on en a d'autres aussi sur, enfin, avec les campagnes d'ici c'est cool, sur les insultes. On en a un sur ce poteau-là qui dit c'est une insulte, c'est sale pute barré, et les injures sont punies par la loi pour que la fête reste safe. Et en dessous, si vous avez besoin, il y a l'espace d'écoute du village ou du centre de Prev. Et pareil, avec les petites affichettes, il y a des bouchons d'oreilles pour que le son reste un plaisir. Et même à vélo, conduite sobre, il y a des éthylotests au centre de Prev. On a essayé aussi de faire un petit peu de signalétique sur le festival.
On ne se cantonne pas juste à notre stand, on essaye aussi de dispatcher un peu de la communication un peu partout sur l'espace du festival, pour que les gens sachent que déjà il y a l'espace prévention-réduction des risques. Et même si les personnes n'ont pas envie de venir au stand, avoir déjà un visuel, ça peut interpeller et faire émerger des questions, etc. Et toujours dans cette optique, créer l'échange et un petit peu la réflexion chez les publics.
Et promouvoir la santé dans tous les lieux.
Vous avez parlé du protocole. Est-ce que vous avez eu un cas où vous avez dû l'appliquer ?
Eh bien, fort heureusement, non, on n'a pas eu besoin. Donc, c'est super rassurant pour quartier d'été, notamment. Et on espère encore que ce soir, il n'y en aura pas besoin. Mais s'il y en a besoin, tout le monde est prêt à réagir et à faire en sorte toujours qu'on gère au mieux la situation.
Et les bénévoles présents sur le stand, c'est des bénévoles de différentes associations qui sont partenaires, ou c'est des... Comment ça se passe quand vous les recrutez ?
Alors en général, pour chaque intervention, on fait toujours un appel à bénévoles et à salariés aussi dans les assos partenaires, notamment le planning familial. En général, c'est le planning qui a souvent le plus de bénévoles disponibles, voire même des salariés. Donc on a effectivement des salariés, des bénévoles, des assos partenaires et membres du collectif. Mais on a aussi des bénévoles qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du stand de prévention, de Prévenville, et qui contactent soit par mail, soit directement au 4 bis en disant « ça m'intéresse, est-ce que je peux devenir bénévole ?» Auquel cas, évidemment, on les accueille, on leur fait au moins une petite formation de départ pour avoir les bases de la prévention, réduction des risques. Et ensuite, là, par exemple, ce soir et même hier, on en avait des bénévoles qui ne sont pas dans les structures, mais qui viennent vraiment de l'extérieur.
De Boulevanie, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec le trio Barrio Colette et leur titre « Filles garçons », extrait de leur EP « Amour de vivre ». Salut.
framboise.
Ouais, je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas.